RFI.
Alors, on dit quoi ?
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Alors on dit quoi ? Ce samedi, j'ai eu envie de vous parler d'un mot que l'on entend un peu beaucoup, un peu trop souvent à tort et à travers, leadership. Un terme anglais qui a plusieurs facettes, de nombreux cadres l'utilisent en faisant référence à un niveau hiérarchique, à un charisme ou encore au chef de la tribu. Pour certains, il désigne la motivation, pour d'autres, c'est synonyme de résultat et pour d'autres encore d'inspiration. Chacun de nous pense avoir une idée de ce que c'est d'être un bon leader, mais alors comment faut-il définir ce concept car ce n'est pas facile. Que veulent dire leader et leadership exactement? Qu'est-ce qu'être un leader? En quoi consiste le leadership? Leadership, influence, pouvoir, quelle différence? Êtes-vous un leader? Les réponses dans un instant.
Alors on dit quoi? Avec Diaran Diaye.
À mes côtés aujourd'hui, dans Alors on dit quoi, Meyan Tolo, fondatrice du magazine Afrocadre et consultante informatique. Bonjour Meya.
Bonjour.
Gloria Fataki, présidente et fondatrice de l'association Inclusive Society, qui accompagne l'autonomisation économique par le biais de l'éducation, de l'insertion professionnelle et du leadership. Elle est également à mes côtés. Bonjour Gloria.
Bonjour Diara.
Et par téléphone en ligne avec nous, Saïd Akbanrin, directeur associé du cabinet Managere Associé, expert en management et fin connaisseur des problématiques de leadership, notamment dans le contexte entrepreneurial. Bonjour Saïd.
Bonjour Diara.
Merci infiniment à tous les trois d'avoir accepté notre invitation et je vous propose de suite de démarrer avec ce reportage. Le charisme est une qualité innée, il est toutefois primordial de savoir le mettre en valeur de façon pertinente afin d'être un leader suivi. Mais d'abord, une question, qu'est-ce que le leadership ? Élément de réponse dans ce reportage de Tia Sao, notre correspondante à Madagascar.
Leadership, un mot devenu une véritable tendance depuis quelques années à Madagascar, notamment sur les réseaux sociaux. Les entités qui dispensent des formations en leadership ou qui organisent des concours dans ce sens ne cessent de se multiplier, en particulier pour les jeunes malgaches. Pour Anzara Ralayardzoun, membre de la Jeune Chambre Internationale Madagascar et formatrice en leadership depuis 2008, c'est l'envie de devenir un leader, la volonté de diriger, qui explique cet engouement.
À nos débuts, à la Jeune Chambre, en 2007, il y avait une école nationale qui s'appelait NLIM, c'était la National Leadership Institute of Madagascar. C'était une des premières écoles du genre que j'avais connue à l'époque. Et maintenant, donc, presque 15 ans plus tard, il y a vraiment beaucoup d'organisations, d'associations ou de programmes qui proposent des formations leadership. Donc, que dire de plus que maintenant, actuellement, les jeunes ont un fort attrait pour le leadership. Pourquoi un jeune serait intéressé par le leadership? Peut-être que c'est un mot, c'est un vocabulaire, c'est une notion qui est très véhiculée actuellement et que du coup, on se dit que ce serait bien d'apprendre ce que c'est le leadership. Le leadership, on a des définitions comme ça dans la tête, on se dit tiens, c'est leadership, mais le leadership, on ne le comprend pas dans les formations, on le comprend vraiment lorsque on se met à diriger des hommes, des personnes. Et quand je dis diriger, c'est pas diriger au sein d'une équipe, c'est vraiment véhiculer des idées, des valeurs qui peuvent mener des gens à d'autres gens à un meilleur niveau qu'ils ne le sont actuellement. Donc pour moi, pour résumer, vraiment c'est vraiment une notion à laquelle tout le monde devrait adhérer, mais qu'on ne sait pas au départ.
Le leadership est plus qu'une tendance. En atteste la multiplicité des programmes internationaux qui lui sont dédiés. Kant, une jeune malgache que nous avons rencontrée, a par exemple pris part au Young African Leadership Initiative en 2018. Le YALI, fondé par le président américain Barack Obama en 2010, encourage l'émergence et le développement de jeunes leaders activement impliqués et qui apporteront des changements positifs dans le domaine de l'entrepreneuriat, leadership civique et de gestion publique dans leur pays. Une expérience qui a fortement conforté sa vocation.
Depuis l'université, j'ai toujours effectué des actions de bénévolat et à travers ces actions, donc j'ai eu conscience que les jeunes ont vraiment un rôle à jouer dans le développement de la communauté et du pays. Et cela ne peut être entrepris que si les jeunes ne détiennent les compétences et les capacités d'influencer et d'apporter des changements.
Ce sens du patriotisme, cet engagement pour le développement du pays, cette détermination à apporter un changement positif, plusieurs autres jeunes malgaches l'ont acquis. C'est le cas d'Erico, président de l'association JAI, ou Jeunes Actifs Interrégionales, qui prône une citoyenneté active, responsable et engagée. Créée en 2012, sa structure agit à travers trois piliers stratégiques, développement personnel et leadership, culture entrepreneuriale et citoyenneté. Dans le contexte du Covid-19, son association a organisé le Zaharive. Il s'agit d'un concours de vlog de 30 secondes à 1 minute où le participant décline sa vision de Madagascar post-pandémie.
Zaharive signifie partage de la vision. Zahar comme partage et rêve comme vision ou rêve, c'est un jargon propre à la jeunesse malgache pour exprimer le défoulement ou la fantaisie des jeunes. En ce temps de crise, toutes les personnes, notamment les jeunes, ont perdu d'espoir. Face à la prolifération des insécurités de tous ans, l'objectif de Zaharive, c'est aussi d'aider les jeunes à s'exprimer et de partager leurs opinions publiquement. Aussi d'influencer positivement les activités des jeunes dans les réseaux sociaux, surtout Facebook.
Les réseaux sociaux sont utilisés comme un levier de changement pour véhiculer un message positif. C'est ainsi que les vidéos de chaque candidat ont été partagées sur la page Facebook. Les 15 vidéos qui obtiendront le plus de réactions remporteront le concours et bénéficieront de formations en leadership et développement personnel, culture entrepreneuriale, civisme et citoyenneté. Ces vidéos serviront également d'outils de plaidoyer pour la confection d'un document qui sera proposé aux responsables étatiques dans les mois à venir pour l'orientation politique du gouvernement.
Des plaidoyers, des formations, des concours et tout ça tourne autour du leadership. Alors moi je me pose toujours cette question et je veux que Saïd nous réponde. Pour moi la définition de leadership elle est plurielle, tellement plurielle que le terme en a perdu de sa clarté. Tout le monde veut être leader et confond le leadership avec l'influence ou le pouvoir. C'est quoi être un leader aujourd'hui pour vous Saïd?
Alors, c'est une question très vaste et très compliquée. Effectivement, la notion de leadership, c'est une notion qui a une signification bien précise. Et malheureusement, et c'est un peu par rapport à votre reportage le démontre bien, il y a beaucoup de confrères qui se sont engouffrés dans cette voie parce qu'il y a énormément de jeunes qui sont passionnés par le leadership et qui proposent des formations pour développer le leadership. Pour vous définir le leadership, je vais vous prendre un exemple. Voilà, il y a un jeune homme qui m'appelle un jour en me disant je veux absolument développer mon charisme, je suis créateur d'entreprise, je veux développer mon charisme. Je lui ai dit, écoutez, si tu as 10 ans devant toi, on peut y travailler, mais tu as eu une formation d'une journée ou deux journées, c'est juste impossible. Et en fait, ce jeune homme avait juste besoin de savoir faire un pitch elevator, il a besoin de convaincre des investisseurs. Donc, on est plutôt au niveau du savoir ou du savoir-faire, pas encore au niveau du savoir-être, parce que le savoir, c'est comment faire un pitch, le savoir-faire, c'est une pratique, c'est des outils, c'est des méthodes. Quant au savoir-être, c'est du personnel. Le leadership s'adresse plus à la personne, à ses talents personnels, plutôt qu'à des compétences qu'on peut acquérir facilement. Donc pour moi, en un mot, le leader, il montre la voie et les gens y vont. Le manager, il montre la voie et il conduit. Donc il faut qu'on fasse vraiment bien la distinction entre la notion de leader et la notion de management. Et le management, c'est un mot dont on ne devrait plus avoir honte. Être un bon manager, c'est bien.
Et on va voir comment l'être d'ailleurs. Juste avant, ouais. On va recueillir les impressions de nos invités ici en plateau. Mais Yav, qu'est-ce qui vous a marqué dans ce reportage où on essayait d'un peu de définir ce que c'est le leadership aujourd'hui?
En fait, on se rend compte que beaucoup de jeunes, comme ça a été dit, beaucoup de jeunes courent après le leadership, courent après des postes à responsabilité. Après, la question à se poser est de savoir Pour quel objectif? Pour quelle mission? Parce que finalement, un leader, c'est quelqu'un qui a une mission ou qui a des missions et qui a la capacité, de pouvoir partager cette vision-là à un grand nombre et qui a la capacité d'influencer de manière positive ou négative son entourage.
Est-ce que pour vous, c'est quelque chose qui se décrète? On se lève un matin et on se dit, allez, je suis un leader, ou alors ça ne se décrète pas, c'est plutôt quelque chose que l'on vit, que l'on expérimente au fur et à mesure de sa vie?
Alors, je vais oser dire oui et non. Oui, parce que on a tous en soi la connaissance de sa personnalité. C'est vrai qu'il y a des gens qui, par leur personnalité, savent s'imposer de manière générale. Vous les mettez dans un groupe de travail, par exemple, c'est quelqu'un qui va prendre le lead entre guillemets très facilement. Donc, il y a
de façon naturelle, comme vous dites facilement, de façon naturelle.
Voilà, exactement, de façon très naturelle, et c'est quelqu'un finalement qui va se rendre compte que ah oui, j'ai quand même quelques capacités de peut-être de management ou de lead, on va dire ça comme ça. Et non, pourquoi? Parce que je pense que quelque part aussi, c'est aux autres, c'est à l'environnement, d'attester également de votre leadership. Et
parce qu'il faut des suiveurs, effectivement.
Exactement.
Il faut être un peu validé, entre guillemets, par les suiveurs.
Parce qu'il n'y a pas de leadership s'il n'y a pas, de suiveurs, exactement.
Et pour vous, Gloria, qu'est-ce qui vous a marqué, vous? Qu'est-ce que vous avez retenu d'intéressant dans ce reportage autour du leadership?
Alors autour du leadership, ce que j'ai vraiment retenu, c'est toute l'explication sur l'implication de la jeunesse. C'est vrai que les jeunes aujourd'hui veulent être leaders, veulent s'impliquer au plus haut parfois des sphères politiques. Mais je pense qu'avant tout, si on parle par exemple de la jeunesse africaine, leur objectif principal, je pourrais aussi m'inclure dedans, sachant que je suis issue de la diaspora, notre objectif principal, c'est de faire évoluer aussi le développement des pays respectifs et être acteur. Et pour ce faire, il faut prendre en considération justement le leadership de la jeunesse. Il faut que nous, les jeunes, on puisse aussi s'imposer. Et se proposer aussi dans un premier temps et s'imposer dans un second temps si on n'est pas entendu. Donc c'est ce que j'ai vraiment retenu du reportage et d'où
la jeunesse a son mot à dire finalement.
La jeunesse a son mot à dire et au-delà d'être opportuniste, je pense qu'elle souhaite aussi faire avancer les choses.
Moi j'aimerais qu'on en revienne un petit peu à la génétique parce que j'ai lu une étude, Saïd peut-être que vous allez confirmer ou infirmer cela d'ailleurs, il semblerait que des études attestent que la génétique joue également dans la prédisposition à être un leader, c'est-à-dire en étant grand par exemple, en ayant une éducation familiale un peu particulière, dites-nous ce que vous en pensez.
Alors, pour vous répondre très simplement, vous avez dit deux choses. Vous avez parlé de génétique et de l'environnement familial. Moi, je ne peux pas vous démontrer si la génétique a un impact ou pas. Et personne ne peut le démontrer, ni pour ni contre. En revanche, ce dont on est persuadé, c'est que le contexte, l'environnement est un facteur favorable. Quand je suis né dans une famille où les petits, les enfants, les ados ont la parole à table, je ne développe pas mon leadership de la même manière que dans une famille où seuls les hommes à cheveux blancs ont le droit de prendre la parole. Voilà, donc effectivement, pour moi, l'environnement a un impact décisif. Et on le voit, effectivement, on le voit dans le système de leadership en Afrique. Vaut mieux être un homme âgé, cheveux blancs, pour qu'on vous confie des responsabilités. Donc, ça a une influence. Et par rapport au reportage, je voulais vous dire, moi-même, j'étais membre jeune chambre pendant de nombreuses années, je suis sénateur jeune chambre, et je trouve que le travail qui est fait à l'intérieur de la jeune chambre du Malaise Générable est un travail qui est utile, parce que c'est un travail qui crée des conditions pour qu'on puisse tester son leadership. On a des formations certes, mais on a aussi des responsabilités. On vit des expériences pendant qui effectivement vous font toucher du doigt ce que c'est que avoir du leadership ou pas. Donc pour les jeunes Africains, c'est une bonne école. En fait, moi, mon propos de tout à l'heure, ce n'est pas tant que le leadership peut s'acquérir ou ne peut pas s'acquérir, c'est lié au temps disponible. On ne peut pas travailler son leadership en une séance de formation, une journée de formation. C'est quelque chose qui se vit sur du long terme. En revanche, on peut acquérir des savoirs rapidement. On peut s'entraîner, on peut devenir un bon manager et prendre des responsabilités.
Mais Saïd, excusez-moi de vous couper, tout à l'heure, par exemple, Gloria parlait de jeunesse. Est-ce qu'il y a un âge pour être leader?
Il n'y a pas d'âge pour être un leader, justement. C'est tout mon propos, il n'y a pas d'âge.
Dire, effectivement, le contexte va révéler le leader, en fait. Donc, effectivement...
Non, il n'y a pas d'âge. Effectivement, moi, il y a des... Je ne sais pas si vous avez revu récemment la vidéo de, alors c'est un exemple comme un autre, de Nicolas Sarkozy quand il avait 23 ans. Mm-hmm. Et qu'il parlait déjà, on sentait déjà que c'était un monsieur qui avait du charisme, on aime ou on n'aime pas, peu importe, on fait pas de la politique. Mm-hmm. Donc il n'y a pas d'âge réellement pour être leader ou pas. Mais est-ce que c'est génétique? Moi, personnellement, je n'y crois pas. Je peux pas vous le démontrer. En revanche, je pense que l'environnement influe énormément sur le leadership. Sur le leadership.
Mélia, est-ce qu'il y a des critères communs aux leaders, selon vous?
Oui, oui.
Oui, est-ce que vous pouvez nous en citer oui. quelques-uns, par exemple?
La confiance en soi, généralement, c'est des personnes qui ont confiance en elles. C'est des personnes qui savent parler en public, déjà, s'exprimer devant un grand nombre de personnes. C'est des visionnaires. C'est des personnes qui ont... Alors, j'ai lu une étude, justement, qui disait qu'on retrouve comme qualité l'humilité, le goût du travail. Et puis, c'est des personnes travailleuses. Et c'est surtout des personnes qui ont envie de se rendre disponibles, se mettre au service des autres.
Oui, exactement. Moi, j'avais lu 280 traits de leadership qui ont été identifiés dans la Harvard Business Review. Il y avait par exemple courageux, empathique. C'est un petit peu ça vous rejoint un petit peu. Pour eux, ça n'a pas forcément de sens de trancher. Il n'y a pas un type de leader né. Mais pour vous, Gloria, par exemple, si je vous dis leader, est-ce que vous pensez à une personnalité forte tout de suite?
Pas forcément, parce que on parle souvent. Enfin, j'aime bien le terme force tranquille. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui n'ont pas forcément un caractère très prononcé, mais qui ont la capacité, en fait, à faire avancer les choses, à faire évoluer les mentalités, tout en ralliant à leur cause d'autres leaders d'opinion, d'autres personnes. Donc, pour moi, il n'y a pas besoin d'avoir un fort caractère pour pouvoir être un leader. Bien au contraire, parfois être, on va dire, plus discret permet de faire avancer plus rapidement certains sujets.
Saïd, qui a de l'expérience là-dessus, est-ce qu'il faut être autoritaire quand on est manager, ou alors comment équilibrer le pouvoir et le leadership?
Alors, juste pour faire le lien avec ce qui vient d'être dit précédemment,
oui.
Pour être un leader, il y a des talents. Les talents, justement, comment développe-t-on un talent? On développe un talent parce qu'on est plongé dans un environnement, et dans cet environnement, on a des besoins, et la manière dont on apporte une réponse à ces besoins peut devenir un talent si quelqu'un vous aide à prendre conscience. C'est un point fort. Et cet talent, effectivement, comme ça a été dit précédemment, c'est le point commun de tous les leaders. Et un leader n'a pas besoin d'être dominant, surtout pas. Un leader, il n'a pas besoin d'être dominant, il a besoin d'avoir de l'empathie sociale, mm-hmm. il a besoin d'avoir de la persévérance, il a besoin d'avoir de la stagiabilité, d'avoir de la sociabilité, le contact. C'est à différencier de la notion de manager. Le manager a une fonction, il a un titre, il a des règles à faire respecter. On lui demande effectivement d'avoir un peu plus de caractère, comme on dit communément. Mais j'aime bien ce qui a été dit par Mme Fataki, c'est la plupart des leaders qu'on connaît tous, pour ne citer que celui-là, Nelson Mandela, mm-hmm. c'est plutôt quelqu'un de calme et de posé, pas quelqu'un qui paraît autoritaire. Mm-hmm. On ne le connaît pas dans sa vie privée, mais dans sa vie publique, c'est pas quelqu'un qui est autoritaire. Mm-hmm. Si on veut parler de Barack Obama, c'est pas quelqu'un qui paraît, c'est pas Trump, en termes de personnalité, mais il a ce charisme-là, donc... Les leaders ont tous des talents communs. Il y a plusieurs types de leaders, mais il y a des constantes. L'une des constantes étant cette capacité à avoir de la vision, à pouvoir donner et montrer le chemin aux autres.
On a entendu depuis tout à l'heure des mots comme charisme également. Est-ce que le leadership, c'est aussi le personal branding? C'est ce qu'on entend beaucoup, le marketing de soi finalement, c'est développer son image, valoriser aussi son image, avoir une marque personnelle. Est-ce que c'est ça aussi le leadership?
Alors pour moi, quand on a la chance, parce que c'est une chance, d'avoir développé ces talents-là, on n'a pas besoin de faire du personal branding. En revanche, on n'a pas tous... Et c'est malheureux, et c'est triste à dire, mais c'est une constante. On n'a pas tous ces talents-là. Après, il faut travailler son leadership, il faut travailler son charisme. Et ça peut passer par là, moi je ne l'exclus pas. Pour certaines personnes, travailler son personal branding est un outil nécessaire pour développer, pour avoir un minimum de semblant de charisme. Je prends toutes les précautions oratoires qu'il faut, mais on peut passer par là. Mais quand on a vraiment ces talents-là, qu'on les a développés, on n'en a pas besoin. Ça se fait tout seul. Et on le voit, il y a des jeunes, des moins jeunes, quand ils sont plongés dans un environnement, ben, ils ont une lumière, ils prennent la lumière mieux que d'autres. Ce n'est pas le fruit du hasard. Et ceux-là n'ont pas besoin de personnel branding.
En enfer, on mange pas le coup. En enfer, on mange pas le coup. En enfer, on mange pas le coup. J'ai dit en enfer, on mange pas le coup.
Et on fait une petite pause musicale à présent en écoutant KS Bloom à l'eau.
Un gars au paradis, vaut mieux que connaissez un enfer. Parce que un gars au paradis, vaut mieux que connaissez un enfer.
Pour de bien se rendre à l'évidence, tu dis que tu crois seulement ce que tu vois. Tu crois pas en Dieu, mais tu crois au vent. Tu ne viens pas me parler d'intelligence. Les gens s'étonnent que je sois plus le même depuis le 9 octobre 2017. Donc vas-y, essaie de me dire, mec, c'est quoi ton secret, je te le dirai.
Ouais, l'objectif c'est être un chrétien, pas de ressembler à un chrétien. Il se déguise pour venir à l'église, mon cher, c'est l'état de ton cœur que tu retiens. Ceux qui pensent que le ciel est pour les religieux, allez-y. Allez voir et venez, on vous attend ici. Si tu aimes les bons, oui, faut tout faire pour être au paradodo. Faut pas laisser Satan va te blaguer. En enfer, on mange pas le coup.
En enfer, on mange pas le coup. En enfer, on mange pas le coup. En enfer, on mange pas le coup. J'ai dit en enfer, on mange pas le coup.
Je vais peut-être te choquer, mais même vous faites popo, y'a ça là-bas.
Oh, paradis est mieux.
Doudou, para, 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 doudou, pour
paradis. Oh, paradis est mieux.
Doudou, para, 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 doudou, pour paradis.
En enfer, on va pas à dos. Ouais, en enfer, on mange pas à loco. Tu veux porter seul ton étoile, te plains pas de ton mal de dos. Je connais quelqu'un qui dit qu'il peut te décharger de tes fardeaux. Et il a fait pour moi les résultats. Toi-même, tu les vois. Et...
C'était KS Bloom à Loco.
Alors, on dit quoi ?
Ce samedi, on parle leadership. Qu'est-ce qu'être un leader ? En quoi consiste le leadership ? Leadership, influence, pouvoir, quelle différence ? Êtes-vous un leader ? Les réponses dans quelques instants, notamment avec nos auditeurs qui nous appellent. Et nous prenons en ligne Noëlla. Noëlla est manager en service relations clients. Bonjour Noëlla.
Bonjour, bonjour.
Noëlla, ravie de vous avoir en ligne aujourd'hui pour partager votre expérience, puisque vous avez deux équipes à gérer, vous, n'est-ce pas ?
Exactement, oui.
Alors, parlez-nous de votre expérience. Je sais que vous gérez 5 personnes d'un côté et 10 personnes de l'autre, c'est bien cela ?
Exactement. Bah, écoutez, moi, je suis manager depuis bientôt 3 ans. Mm-hmm. Donc, je suis arrivée pour un poste et au bout de 3 jours, on m'a dit « Attends, on te veut pas ce poste-là, on te veut en tant que manager d'équipe. Mm-hmm. » Donc, en fait, dès le départ, on m'a mis dans le bain. Et voilà, moi, ma mission principale, c'est de faire atteindre les objectifs fixés par ma hiérarchie, mm-hmm, en m'appuyant sur les hommes et les femmes qui sont à mes côtés au quotidien. Quoi. Les équipes que je gère, aussi bien d'un côté les 5 et de l'autre côté les 10. Les amener à atteindre les objectifs qui sont fixés par ma hiérarchie.
Et est-ce que vous vous souvenez de vos premiers pas, Noëlla ?
Vos premiers pas en tant que manager. Ah oui, bah c'était un petit peu tendu au début, mais à partir du moment où on m'avait donné une mission, je m'étais donné pour objectif de l'atteindre. Et comme de nature, je suis quelqu'un qui aime mettre la main à la pâte et qui est persévérante, j'ai tout de suite, même sans savoir un petit peu dans quoi je mettais les pieds, j'ai foncé, je pense que c'est ça en fait, qu'on attendait de moi, c'est que on me donne des objectifs et que je mette tout en sorte pour les réaliser et les atteindre.
Mmh. Et en tant que jeune, en tant que femme et en tant que manager, quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées à ce poste ?
Alors à ce poste, la difficulté principale, c'était peut-être au départ le regard des autres. De mes binômes, les personnes avec qui je devais travailler. Mm-hmm. Je devais travailler et au départ, c'était un petit peu difficile parce que j'apparaissais un petit peu pas comme une menace, mais parce que moi, dans ma manière de travailler, je suis quand même quelqu'un de très carré. Et c'est vrai que mon vis-à-vis, c'est un homme et je voyais qu'il y avait quand même une certaine concurrence, alors que de mon côté, je n'avais pas fait en sorte de faire de concurrence, en fait. Mm-hmm. Mais je voyais qu'il voulait absolument s'imposer, prendre les décisions. On était deux. Mais il voulait en fait sans cesse s'imposer Mais moi, je ne suis pas quelqu'un qui marche dans la concurrence. Donc, je fais ma part de travail et forcément, on se détache. On se détache on agit différemment parce qu'on n'a pas la même notion du management. Après, je ne sais pas.
Oui, parce que pour vous, vous n'avez pas de définition d'un bon manager. En tout cas, qu'est-ce que vous mettez en avant pour continuer à diriger ces deux équipes de 15 personnes ?
Alors moi, ce que je mets en avant, déjà, c'est la communication. C'est la communication, savoir énoncer des consignes, répéter s'il le faut, et surtout faire sortir le potentiel de chaque personne qui vient. Parce que moi, je pars du principe où si on m'a donné l'opération, c'est que si ces personnes font partie de l'équipe, c'est qu'ils ont les capacités, c'est qu'ensemble, on peut construire en fait la réussite. Pour moi, c'est de mettre en avant les autres, voir leur potentiel peut-être qu'ils ne l'ont pas encore découvert, et moi, d'extraire cela pour qu'ils puissent en fait développer le meilleur d'eux-mêmes. En fait.
Et Noëlla, est-ce que vous avez des ambitions futures aujourd'hui ? Est-ce que vous voulez prendre la tête, par exemple, de la compagnie ?
Alors, peut-être pas de la compagnie, mais de manière personnelle, effectivement, oui, je me vois bien en fait à la tête de ma propre entreprise. J'ai plusieurs projets et j'ai l'impression que là où je suis, ça me permet d'être un tremplin pour moi-même. Ça m'a permis de gagner en confiance, en moi et de me dire que effectivement, je suis capable de prendre les décisions qu'il faut au bon moment. Donc oui, pourquoi pas être à la tête de ma propre entreprise.
En tout cas, on vous souhaite beaucoup de courage et une bonne continuation à vous, Noëlla.
Merci beaucoup.
Merci
pour votre accueil.
Je vous en prie.
Au revoir.
Autre auditeur que nous avons en ligne, il s'agit de Mohamed Babi, fondateur de Ben Shoes. Bonjour Mohamed.
Bonjour tout le monde. Bonjour à tous les auditeurs aussi.
Alors Mohamed, vous avez 30 ans et vous vivez au Sénégal. Dites-nous quelle est votre vision du leadership en 2020 ?
Alors, comme on a l'habitude de le dire, on a l'âge qu'il dit, on est leader. Parce que le leadership, moi, je pense que c'est ça. Le leadership est dans l'ADN de tout un chacun. Mais quand même, il faut le développer avec des qualités, n'est-ce pas ? Avec quand même une certaine formation et aussi faire bouger les choses. Parce que nous qui sommes du Sénégal, en tout cas, nous, on pense que vraiment, il faut poser des actes, n'est-ce pas? Et c'est comme ça que vraiment, on pourrait peut-être développer son leadership. Carrément, le leadership, c'est, disons, c'est la qualité à avoir en 2020, vu qu'on est dans un contexte où vraiment, il y a des hauts et des bas. Et il faut quand même des leaders pour vraiment faire avancer les choses.
Et si vous aviez un conseil à tous ces entrepreneurs, à tous ces leaders, à tous ces jeunes leaders qui nous écoutent, quel serait ce conseil ?
Alors, déjà de sortir de sa zone de confort. Parce que malheureusement, il y a beaucoup de jeunes qui pensent que le système ancien, que nous appelons le système ancien, était avoir des diplômes, des postes de stage et avoir préalablement un boulot. Ce système-là ne fonctionne plus au Sénégal. Et donc, si on le garde de l'autre côté, l'alternative de l'emploi au Sénégal, c'est l'entrepreneuriat. Donc, nous disons à tous les jeunes de sortir de leur zone de confort. Chacun de nous a une passion, un rêve, et si on ne se lance pas, on ne pourra jamais le réaliser. Et vraiment, il est temps que les jeunes prennent les devants, parce que l'Afrique a besoin de sa jeunesse, le Sénégal a besoin de sa jeunesse, mais surtout tout le monde.
Merci infiniment pour votre participation, Mohamed.
Merci à vous aussi.
Mélia, j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur la question des femmes. On l'a entendu tout à l'heure avec Noëlla, qui elle est manager dans une entreprise où elle gère à peu près une quinzaine de personnes. Et vous, à travers le magazine que vous avez fondé, Afrocadre, vous essayez aussi d'impulser une vision du leadership féminin.
Exactement. Alors Afrocadre, donc c'est un magazine afroféminin qui a pour objectif de mettre en avant des femmes entrepreneurs noires ou éventuellement des femmes cadres. L'objectif est de pouvoir faire la promotion de leurs compétences et de leur business. On a également une partie conseil, donc on va prodiguer des conseils sur tous les aspects de gestion de carrière et gestion d'entreprise. Donc l'objectif était à la base de proposer une autre image de la femme africaine, loin des clichés, parce que j'avais fait le constat que l'image de la femme africaine était toujours liée à la superficialité.
Donc, la beauté, la mode.
Exactement. Pas que ce soit mauvais, mais je voulais montrer au travers d'Afrocadre que la femme africaine, c'est pas que ça, et qu'une femme africaine ne passe pas sa journée à se maquiller. Donc il y en a qui sont allés à l'école, il y en a qui ont des diplômes, il y en a qui sont cadres, qui sont entrepreneurs. Et j'avais fait le constat également de l'invisibilité des femmes noires dans les médias français classiques. Et donc j'ai entrepris de proposer ce projet Afro4 qui a pour objectif justement de donner de la visibilité à celles qu'on ne voit pas et qui font de belles choses.
Et c'est ce que vous faites puisque vous avez une rubrique spécifique carrière.
Exactement.
C'est un petit peu vraiment le cœur de cette émission. Vous donnez des conseils. J'ai par exemple un article où vous donniez des conseils pour améliorer le travail en équipe. Un autre pour renforcer la visibilité au travail. Un autre exemple pour monter les échelons. C'est un petit peu de nombreux conseils. Alors, avec qui est-ce que vous travaillez pour développer toutes ces thématiques?
Alors, je travaille en majorité avec des entrepreneurs, que ce soit hommes ou femmes. Donc, c'est des personnes qui ont une expertise particulière. On vise à bien choisir nos rédacteurs pour garantir une qualité de contenu à nos
lecteurs. Oui, vous travaillez avec des experts, des coachs.
Voilà, exactement. Donc, on a une rubrique, par exemple, assurance, qui est gérée par quelqu'un qui est dans le domaine. On a des rubriques business, qui est aussi gérée par des personnes du secteur. Toute la thématique de finance est écrite par des comptables ou éventuellement des experts en finance. Enfin voilà, je travaille majoritairement avec des entrepreneurs, chacun expert dans son domaine.
Et à travers Afro4, comment vous impulsez ce côté leadership féminin et afro-féminin?
Alors, comment je l'impulse? Alors déjà, en mettant en avant, on a une rubrique qui s'appelle « S'inspirer ». Donc, chez Afro4, on a trois objectifs. Inspirer les femmes, cultiver les femmes et informer les femmes. Donc, dans le cadre de l'objectif d'inspiration, on met en avant des profils de femmes, jeunes femmes, des mamans, entrepreneurs, pour montrer justement à la jeune génération qu'il est totalement possible de réussir et qu'il y a une autre forme d'emploi qui est l'entrepreneuriat vers laquelle, en fait, ils peuvent se diriger.
C'est un peu vos slogans. Les femmes africaines entrepreneurs et cadres se révèlent. Qu'entendez-vous par là? C'est votre slogan.
Exactement. Alors, se révèle signifie se montre, parce que vous avez des entrepreneurs femmes qui font de belles choses, mais qui souhaitent rester dans l'anonymat. Il y a des projets qui sont connus de tous, mais on ne connaît pas la personne qui est derrière. Donc voilà, l'objectif d'Afro4 est de pouvoir en même temps présenter ce profil professionnel de la femme, mais également présenter la femme en tant que femme, tout simplement.
La femme, on en parle encore avec une question pour vous, Saïd. Dans la bataille des sexes, des études récentes montrent que les femmes sont de meilleurs leaders que les hommes, qui détiennent encore la majorité des postes, on le sait. Quel est votre point de vue là-dessus?
Sur
la question des femmes qui sont meilleures leaders que les hommes.
Alors, en fait, ce serait bien que vous me partagiez cette étude.
Vous la partager. Elle nous dit qu'elle communique mieux. Ouais. La femme bâtit des communautés. Elle respecte plus une éthique des affaires. Elle fait preuve de plus de patience. Elle suscite la passion dans le travail. J'en donne quelques exemples, bien entendu, mais ce sont des qualités, en tout cas, qui reviennent dans cette étude.
Alors, je les partage entièrement. Et
une étude de Zenger Folkman.
Je les partage complètement et je fais partie de ces hommes qui disent, et ce n'est pas qu'un slogan, que l'avenir de l'Afrique se trouve dans les mains des femmes. Mais malheureusement, elles ont du mal à percer en Afrique. Elles ont beaucoup du mal à percer en Afrique parce que l'environnement n'est pas effectivement favorable à cette éclosion-là, justement. Et je félicite le travail qui est fait par différentes associations. Il y a besoin d'accompagnement, et effectivement, sur un des talents essentiels, c'est la confiance en soi. La confiance en soi, parce que, effectivement, quand l'environnement n'est pas favorable pour vous permettre de vous révéler, c'est beaucoup plus difficile. Et c'est un travail qui est en cours. Et ce qui est vrai dans les analyses, qui est vrai en potentiel, malheureusement, n'est pas encore la réalité du terrain.
D'accord. Alors, on a un autre point de vue que j'aimerais requérir, puisque vous, Gloria, vous avez évolué dans un environnement professionnel masculin, le secteur du digital. La question du leadership, elle est cruciale. Quelle différence avez-vous constaté entre les leaders hommes et femmes que vous avez rencontrés durant votre carrière? Quelle est la particularité, peut-être, du leadership féminin?
Alors, la particularité, déjà, je pars du, les qualités que vous avez mentionnées tout à l'heure, listées, sont vraies. Mm-hmm. On peut aussi les retrouver chez des hommes. Attention, hein, je ne fais pas de, je prends pas de parti pris, mais c'est vrai que les femmes, on a peut-être un peu plus d'empathie sur certains sujets. On a une approche, parfois un peu moins brutale. Après, ça dépend, pour certaines, parce qu'on a aussi le cas de la, comment dire, du leadership masculin qui peut se manifester chez certaines femmes. Donc ça dépend vraiment. Donc à ce niveau-là, je prendrai pas vraiment de parti.
Mais vous, par rapport à votre expérience, en fait, qu'est-ce que vous avez constaté en évoluant dans un monde plutôt masculin dans votre profession? Est-ce que les leaders avaient des particularités, leaders hommes, comparés à ceux des femmes?
Alors, on va dire qu'un leader homme, un homme a plus, selon moi, de scrupules. C'est-à-dire que un homme ne va pas hésiter à le dire qu'il sait, alors qu'il ne sait pas, et il verra après comment procéder. Une femme, si on prend le cas d'une femme en entretien ou devant, si on prend simplement une femme en réunion, si elle n'a pas l'information, elle va faire en sorte de vérifier l'information et de revenir après. Un homme,
donc un manque de confiance en soi, plutôt.
Un manque de confiance, oui. et surtout un besoin d'être assuré.
Vous avez participé à des stages organisés par l'association Awakening Girls qui forment les jeunes femmes de 15 à 18 ans au leadership, c'est bien ça?
Exactement.
Et comment s'organise ce type de stage? Qu'est-ce que vous apprenez?
Alors, je n'ai pas organisé ce stage, c'est vraiment l'association Awakening Girls.
Non, comment s'organise ce type de stage?
Ah d'accord, comment s'organise ce type de stage? C'est-à-dire qu'il y a donc des jeunes femmes de 15 à 18 ans qui suivent pendant une semaine une formation où elles ont des... Elles apprennent les notions du leadership, donc à un jeune âge. Elles ont également des intervenantes, dont je faisais partie. Et elles vont aussi en entreprise pour rencontrer des femmes leaders qui ont des hauts postes dans les entreprises ou qui sont entrepreneurs.
Et qu'avez-vous tiré, vous, de cette expérience?
Alors, en tant qu'intervenante, j'ai trouvé que c'était une expérience hyper enrichissante, aussi bien pour moi que pour elle, parce que c'est important, d'autant plus, comme vous avez dit, j'ai évolué dans un monde masculin, je suis franco-congolaise, donc c'est important pour toutes les femmes de toutes les couches sociales et toutes les origines ethniques de pouvoir comprendre le leadership au plus jeune âge. Parce que ça, c'est un problème qu'on peut aussi rencontrer dans certaines sociétés où on se rend compte bien tard des possibilités que l'on a. Donc le faire à partir de 15 ans, c'est très bien.
Alors, on arrive bientôt à la fin de cette émission et j'aimerais qu'on fasse un petit tour de table pour donner quelques pistes et conseils d'après votre expérience pour nous dire aujourd'hui peut-être comment devenir un leader. Je vais commencer par vous, Gloria.
Alors, comment devenir un leader? Faut commencer par oser. C'est-à-dire que certaines personnes ont cette fibre-là en elles, mais elles n'osent pas. Et c'est vraiment le conseil que je donnerais, c'est que tout à l'heure, si on parle de la jeunesse, si on parle des femmes, il y a parfois ce frein aussi pour la jeunesse, c'est le fait d'être jeune et de voir des personnes, comme on dit, aux cheveux blancs, au pouvoir, qui sont là depuis un certain moment. Donc ça crée des freins psychologiques. Donc l'idée, c'est vraiment de briser ces barrières et d'aller de l'avant et de faire des propositions, de ne pas hésiter et surtout d'inspirer aussi les autres, parce qu'un leader est inspirant aussi, hein, inspirer les autres jeunes et les autres femmes et des hommes aussi au passage.
Donc être leader, ça s'apprend, ce n'est pas inné selon vous?
Alors, ça s'apprend effectivement, c'est-à-dire que on peut avoir cette âme, on peut avoir ce caractère. Tout à l'heure, on parlait de caractère de leader, mais comme disait tout à l'heure Saïd, sur la durée, ça s'apprend. Il y a des codes, il y a des façons de faire, et un leader brutal arrive rarement. Voilà.
Et pour vous, Mélia, est-ce que vous avez des conseils pour développer son leadership?
Je pense que pour devenir leader, très naturellement, il faut avoir le désir de changer les choses. Dans la société, dans sa famille, en tout cas dans son environnement proche ou éloigné. Dans la mesure où vous avez ce désir de changement, ce désir d'améliorer la vie des gens, votre leadership, il se développe très naturellement. Vous attirez très naturellement les gens à vous et vous incitez les autres également à être acteurs de changement. Voilà. Donc moi, je pense qu'un bon leader, pour moi, c'est quelqu'un qui veut changer les choses, c'est quelqu'un qui veut améliorer la vie des gens. On parlait de Nelson Mandela, son objectif, c'était l'égalité raciale. Voilà, donc il avait le souhait de changer les choses et au travers de ce désir-là, ben, son leadership, il a pris un coup. Donc ça c'est une chose. Et ensuite, effectivement, donc il y a la personnalité, parce que je pense qu'il y a différents types de leadership et que chaque typologie va dépendre de la personnalité de la personne. Après, plus ou moins, on a parlé des qualités, ben, travailler sa confiance en soi, travailler son savoir-faire, son savoir-être également, mais rester quelqu'un de passionné dans ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'on n'est pas leader pour être leader, on n'est pas leader juste pour être vu. J'ai une passion, j'ai une vision, j'ai un objectif. Et effectivement, moi personnellement, j'ai toujours eu, enfin la majorité de mes projets tournent autour de l'épanouissement des femmes africaines. Donc c'est un cri du cœur, c'est quelque chose que j'ai vraiment au fond de moi. Et donc je travaille chaque jour justement à proposer des projets pour solutionner les problèmes des gens. Oui. Si vous êtes vraiment dans cette dynamique-là, solutionner les problèmes, vous allez attirer facilement les gens à vous.
Alors, c'est difficile de conclure avec ça, mais on va quand même laisser la parole à Saïd.
Alors, en quelques mots, c'est Henri Millet qui disait qu'un vrai leader n'a pas besoin de conduire, il suffit qu'il montre le chemin. Être un leader, pour moi, c'est quelqu'un qui n'est pas... pour être plus précis, il y a des leaders qui s'ignorent. Et là-dessus, vous avez raison. Les deux intervenants précédents ont raison de le dire, il faut qu'ils osent, il faut pratiquer, il faut prendre des responsabilités, parce que un leader qui s'ignore, c'est quelqu'un qui n'a pas eu la possibilité d'expérimenter. En prenant des responsabilités, on peut découvrir qu'on a des talents de leader. Mais j'insiste, je me permets d'insister, quelqu'un qui n'est pas, on sera pas tous des leaders, c'est pas vrai. Faut pas faire croire à tout le monde. Tous les jeunes ne deviendront pas des leaders, c'est pas vrai. Il y en a certains qui deviendront de bons managers. Et puis, il y aura des gens qui seront des followership. Le leadership a du sens, le followership a du sens. Aucun leader ne peut réaliser ses projets tout seul. Il lui faut des gens pour l'accompagner. Pour moi, pour celui qui n'est pas un leader aujourd'hui et qui a des ambitions pour devenir leader, il faut qu'il s'inscrive dans la durée, dans le temps. Il y a des savoirs à acquérir, il y a des savoir-faire à mettre en œuvre, à pratiquer, prendre de l'expérience, comme l'a dit tout à l'heure Noëlla, et elle pratique, elle s'entraîne. Et incidemment, à force de savoir, d'accumulation de savoir et de savoir-faire, on peut impacter le savoir-être, développer son savoir-être.
Merci infiniment d'avoir participé à cette émission. Merci à vous, Gloria.
Merci, Diarra.
Merci infiniment pour votre participation. Mélia, où est-ce qu'on peut retrouver Afrocadre, d'ailleurs ?
Alors, Afrocadre est en vente exclusivement sur notre site internet. Donc, vous allez sur www.afrocadre.com, vous le commandez et vous le recevez chez vous.
Merci et merci à notre dernier invité, Saïd.
Merci, Diarra.
Et je vous propose une pause musicale, une seconde et dernière pause avec Colonisé de Dynasty.
bagage vocal et prise mentale, le jab brutal. Brutalise le platine comme un assassin assassine. Ce platine, avec la même routine, j'ai des mon B1, mon B confiste. Mon nom d'artiste comme un scatre. Je suis quand je pique pour tous ceux qui kiffent mon hip hop. Pense avec ma vibe, moi les allez comme un zébu, je n'ai que les kings et les grands. Appelle-moi chaque boule, redoutable soldat, non soldé. C'est une nouvelle bataille, MC à la plume d'or.
C'était Dynastie Colonisée.
Alors, on dit quoi ?
Et avant de clore cette émission, nous recevons Stéphane sur notre plateau. Bonjour Stéphane.
Bonjour Diarra, bonjour à tous et à toutes.
Et pour prolonger notre thématique sur le leadership, vous nous proposez le portrait d'un leader incontournable.
En effet, un parcours d'exemple et de réussite africaine, Aliko Dangote est un leader qui inspire. À 59 ans, avec une fortune estimée à 8 milliards de dollars américains, selon Forbes, Aliko Dangote est indéniablement l'homme le plus riche d'Afrique. Fils de commerçant, il commence sa vie d'homme d'affaires en 1977 en empruntant une petite somme d'argent à son oncle pour s'acheter un camion de ciment. Jeune diplômé de commerce, il flaire vite les bonnes affaires. Le Nigeria est en plein boom et le ciment vaut de l'or. Dans la localité de Kano, le commerce se porte plutôt bien, mais Aliko Dangote décide de mettre le cap sur la capitale quelques années plus tard pour fonder sa société Dangote Group, avant de racheter la plus grosse fabrique de ciment d'Afrique subsaharienne. Petit à petit, l'homme diversifiera ses activités jusqu'à avoir aujourd'hui à son actif un conglomérat de 13 entreprises exerçant aussi bien dans le ciment, les télécoms, le pétrole et l'agroalimentaire. Aliko Dangote emploie aujourd'hui 30 000 personnes à travers ses affaires aujourd'hui. Aliko Dangote, par le biais de sa société Dangote Industry Limited, récompense chaque année une centaine d'employés pour leur engagement, leur loyauté, leur service et leur contribution inestimable à la croissance de l'entreprise. Des hommages posthumes sont également remis à des ex-employés décédés pendant leur temps de service pour la société. Aliko Dangote prône également le leadership à travers des cérémonies de récompense qu'il organise chaque année. Un certificat de reconnaissance, une plaque commémorative et une récompense financière sont remis à chacun de ses employés. Bâtisseur d'un empire qui vaut aujourd'hui plus de 10 millions de dollars et qui est la plus grosse capitalisation boursière au Nigeria, l'homme veut désormais explorer d'autres horizons. Malgré sa présence en Zambie, au Sénégal, en Tanzanie, en Afrique du Sud et même en Côte d'Ivoire, Aliko Dangote veut s'imposer en Europe et espère se faire une grosse place à la bourse de Londres. L'homme d'affaires s'est fait fortement remarquer sur la planète en imitant son vœu d'acquérir le club anglais Arsenal. Aliko Dangote poursuit encore ses rêves et n'entend point s'arrêter, une vraie boule d'énergie et une source d'inspiration.
Merci beaucoup Stéphane.
À bientôt.
Alors on dit quoi, c'est terminé. Merci de nous avoir suivis. Sinon n'oubliez pas et surtout n'hésitez pas à prendre contact avec nous. On peut toujours communiquer via les réseaux sociaux. Vous connaissez notre page Facebook et Alors on dit quoi, notre Twitter et notre Insta. Vous n'avez plus qu'à envoyer vos commentaires, recommandations et suggestions. Avant de vous quitter, un petit mot sur un podcast que j'ai beaucoup aimé, Djanké. Djanké raconte l'histoire d'une jeune femme africaine indépendante et de caractère qui va se lancer en politique pour combattre la corruption. Rendez-vous sur notre site internet ou sur Pure Radio. Merci infiniment à toute l'équipe de l'émission, Beverly, Mariam, Daba et Guillaume. On se retrouve samedi prochain, même heure, même fréquence sur RFI. Umno Noha Gongol. À bientôt.